Nous avons de nouvelles questions auxquelles je voudrais essayer de répondre. La première question est de Guadalupe. Elle dit: un ami m'a dit une fois, un bodhisattva devrait être responsable non seulement de ce qu'il dit, mais aussi de ce que les gens entendent quand ils parlent. Parfois, notre motivation est pour le bénéfice d'autrui, mais les gens entendent le contraire. Cette citation est-elle véridique? Si oui, est-il possible d'avoir une influence sur ce que les gens entendent, en dépit de leur manière propre de percevoir la réalité? Je ne pense pas que ce soit possible. Je ne sais pas qui a dit ça. Peut-être parlait-il de Bodhisattva, de Bodhisattva de très haute réalisation, de Bouddha, de gens comme ça. Peut-être ont-ils tellement d'influence positive que les gens peuvent ressentir, la plupart du temps, quelque chose de positif émanant d'eux. Mais je pense aussi que ce n'est pas vrai si vous prenez l'histoire du Bouddha. Il y a eu de nombreux cas où les gens l'ont mal compris. Mais la chose la plus importante ici, le sujet que nous traitons ici, c'est le Bodhisattva Charyavatara. Le sujet n'est pas les grands bodhisattvas, les gens parfaitement éveillés. Il s'agit de comment entrer dans la voie des bodhisattvas. Tout ce que je dis ici est à ce niveau. Il est important pour nous de nous concentrer là-dessus. Nous n'avons pas besoin de discuter trop longtemps des expériences des Bouddhas. Les bodhisattvas sont au plus haut niveau de réalisation. Mais ce n'est pas notre niveau actuel. Donc nous n'avons pas besoin de parler de cela. En fait, nous ne pouvons pas parler de cela. Nous devons parler de ce que nous comprenons, de ce que nous pouvons faire et pratiquer maintenant. Donc je pense qu'à ce niveau, nous devrions essayer de générer l'esprit d'éveil, la bodhicitta, la compassion. Ce n'est pas que la bodhicitta, la compassion, doit être absolument pure, complètement parfaite. Non, rien de cela. On fait en fonction de ce qui nous est possible. Quand on parle de bodhicitta, on ne parle pas de quelque chose d'impossible, de quelque chose de complètement parfait. Nous parlons seulement de bonne motivation, de bonne inspiration, d'une façon bénéfique de comprendre et d'agir que nous pouvons avoir en ce moment. Nous ne parlons pas de quelque chose d'un autre monde. Ou d'au-delà du samsara. Ça, c'est très important à comprendre. Maintenant, nous arrivons à la question suivante. Elle est d'Isabelle. Quand je lis que le Bouddha, assis en méditation, transforme des arbres en fleurs et résiste à toutes les tentations, je réalise que mes actions ne sont pas libres d'impureté. Je vois que, comme pour le Bouddha, la méditation peut transformer notre conscience à l'intérieur et à l'extérieur à la fois. L'introspection doit parfois traiter tellement de points de vue qu'il est vraiment difficile de trouver la paix. Comment puis-je développer de la patience envers moi-même dans un monde qui nous pousse en permanence à agir et réagir? Il faut se dire que même Bouddha, alors même qu'il allait devenir complètement éveillé, tôt le lendemain matin, le soir même encore, il était l'objet de tentations et devait transformer les arbres en fleurs, entre autres. Cela montre qu'il n'est pas facile de se libérer de tous les problèmes. Que cette histoire se soit passée exactement comme cela, ou non, est une autre histoire. Mais ça, c'est un enseignement. C'est pourquoi il est dit aussi dans nos stances du Bodhisattva Acharya Avatara qu'il y aura des pensées négatives, des émotions négatives, des habitudes négatives qui surviendront. Et que cela n'a rien d'impossible ou d'extraordinaire ou de complètement négatif. Que j'ai vraiment à me sentir mal parce que j'ai des émotions négatives. Ce n'est pas comme cela. Mais il nous faut, parce que ce n'est pas bon pour nous de nous laisser submerger par nos émotions et réactions négatives, il nous faut être conscients, attentifs, et pour notre bien, mais aussi pour le bien d'autrui, de réagir de manière positive autant qu'il est possible. Et agir de manière positive autant qu'il est possible. C'est toute la question. Donc, si nous faisons cela et prenons cela comme une manière d'être, alors cela n'a pas d'importance si le monde ou les gens autour de nous mettent la pression pour quelque raison. Cela n'a pas d'importance. Bien sûr, il y a beaucoup d'influences positives et négatives. Beaucoup d'influences, de pression de l'extérieur, de l'intérieur, de toutes les choses négatives. C'est pourquoi on dit qu'il n'est pas facile de faire des choses positives en permanence. Nous devons donc juste nous souvenir de ceci et agir en conséquence. Ce n'est pas que nous ne devions pas agir du tout et rester en méditation en permanence. On ne dit pas cela, mais on doit rester attentif, de conscient de comment on agit et réagit. Voilà. La question suivante. Si des pensées spontanées positives sont trop rares, est-il possible d'engendrer de bonnes réalisations et d'essayer de les suivre? C'est exactement ce dont je viens de parler. Cette question vient de Denis. Nous devons réaliser que nous sommes des êtres samsariques. Les gens autour de nous sont des êtres du samsara. Nous avons de l'ignorance, de l'aversion, de la peur, de l'envie, des émotions négatives, de la colère. Donc tout cela n'est pas hors contexte. C'est normal. Mais ce n'est pas bon pour nous, ces émotions négatives, ces réactions négatives de notre part. Et ces tendances habituelles ne vont rien donner de bon pour nous et pour les autres. Il faut donc que nous nous rappelions et que nous prenions la décision, la motivation ou la résolution de nous en rappeler encore et encore, et c'est ce qu'on appelle pratiquer. Ce n'est pas que nous devions rester en méditation tout le temps et ne rien faire. Il y a quelques questions que je n'ai pas pu traiter dans la vidéo. Je vais donc continuer à répondre à la même liste de questions que j'ai reçues. Ceci est une question de Lucie, reçue le 6 novembre. Elle demande « Que signifie par le pouvoir des Bouddhas dans cette stance ?» Cela me semble faire référence à un pouvoir extérieur, donnant de l'inspiration pour ces moments d'attitude vertueuse. Comment est-ce possible ? Kenpo Kunpal parle des lumières de la Bodhicitta et des aspirations des Bouddhas. Je ne comprends pas vraiment cela non plus. Pourriez-vous m'expliquer un peu, s'il vous plaît ? Nous disons dans notre prière d'aspiration, quand nous générons bodhicitta, j'aimerais trouver un bonheur et une paix durable pour moi-même, et j'aimerais apporter un bonheur et une paix durable pour tous les êtres. C'est pourquoi j'aimerais y travailler, et donc devenir un être éveillé. Si vous n'avez pas une certaine compréhension ou quelque idée de ce qu'en devenant éveillé, Vous aurez plus de pouvoir, plus de sagesse et plus d'influence pour aider les êtres. Il n'y a pas de raison de le faire. Il n'y a pas de raison de travailler pour l'éveil. Donc il y a cette compréhension que plus on est avancé, plus on s'améliore, mieux vous deviendrez équipé pour aider d'autres êtres, plus vous aurez le pouvoir d'aider d'autres êtres. Les Bouddhas ont énormément de pouvoir, énormément de sagesse, énormément de compassion pour aider les êtres. Aussi, tous les Bouddhas qui sont devenus des Bouddhas dans le passé ne sont pas restés à se reposer ou à ne rien faire. Ils essayent constamment d'aider, de guider, d'influencer, de transmettre de l'énergie positive, de l'énergie bénéfique. Cela ne veut pas dire qu'ils peuvent tout faire pour nous. Ce n'est pas possible qu'ils nous prennent et nous mettent quelque part. Mais ils ont une sagesse illimitée, une compassion illimitée, et aussi beaucoup de pouvoir bénéfique. Donc la compréhension à avoir est qu'en recevant même un peu d'énergie bénéfique, d'aspiration positive des êtres bénéfiques que sont les Bouddhas, Bodhisattvas et autres, je veux dire, au travers du pouvoir du Bouddha, ce n'est pas que le Bouddha est le créateur et que s'il lui plaît, il nous donne ses bénédictions et de bonnes choses, et qu'au contraire, s'il est mécontent, il ne donnera pas des bonnes choses, mais nous punira. Ce n'est pas comme cela qu'on comprend les choses d'un point de vue bouddhiste. Il n'est pas le créateur, mais Bouddha est celui qui aide. Et Bouddha peut aider, il doit aider. Et quand nous deviendrons des Bouddhas et des êtres éveillés, nous aurons plus de pouvoir, plus d'énergie et d'influence pour aider les autres êtres. C'est cela l'idée. Maintenant, la question suivante, de Shenpen Taiyé du 6 novembre aussi. C'est formidable que vous puissiez partager ces enseignements à l'échelle du monde. Merci Rinpoche. Cela participe du grand héritage que vous diffusez, quelque chose qui aura des répercussions au-delà de ce que l'on peut imaginer. Je ne pense pas que ce soit une question, mais merci de dire des choses si gentilles. Si vous avez reçu quoi que ce soit de bénéfique par ce biais, je suis très heureux et encouragé, et je continuerai à le faire. Tous ensemble, étudions, pratiquons. Ce n'est pas moi qui peux tout faire. Vous devriez tous, chacun de vous, m'aider. Chacun de vous devrait participer à cette classe. Quiconque veut étudier avec moi et veut pratiquer avec moi, et être mon étudiant ou apprendre quelque chose, travailler ensemble, devrait participer à cette classe. Je pense qu'il est très important que vous rejoigniez tous cette classe et que nous y travaillions tous ensemble. Maintenant, nous étudions le Bodhicharya Avatara. Mais ensuite, nous étudierons aussi beaucoup d'autres textes, progressivement. Merci beaucoup pour vos encouragements. Ensuite, une autre question de Linda Miller. Quelle est l'origine de nos pensées émotionnées positives? Je sais que les trois poisons sont à l'origine de nos impulsions négatives, mais je ne sais pas d'où viennent nos sentiments généreux et notre gentillesse. Émergent-ils de notre nature de Bouddha, même si nous n'en sommes pas conscients? Vous pouvez dire qu'ils viennent de notre nature de Bouddha si vous le souhaitez, parce que l'idée est que fondamentalement, notre nature est positive. Ce qui est positif vient de notre nature fondamentale. Si nous ne sommes pas perturbés, nous serons gentils. Si nous ne sommes pas perturbés par nos émotions internes ou par des problèmes extérieurs, notre esprit sera plus paisible. Si nous ne sommes pas perturbés, alors émotionnellement nous ne serons pas touchés par la colère, mais apaisés et calmes. Tout ceci montre que fondamentalement, nous ne sommes pas complètement négatifs. Quand nous sommes dans une situation positive, une situation qui nous inspire, alors nous avons des aspirations positives, des émotions positives, de bonnes motivations. Mais cela peut aussi se déliter, toutes ces choses ne sont pas si stables en nous. Même si j'ai une très bonne motivation maintenant, cela ne veut pas dire que ça va rester comme cela tout le temps. Cela va s'évanouir et c'est pourquoi nous avons besoin de la maintenir, de la pratiquer. C'est pour cela que la pratique est nécessaire. Nous en souvenir encore et encore est nécessaire. C'est pourquoi penser encore et encore aux raisons pour lesquelles nous faisons cela et pourquoi il est important d'avoir cet esprit d'éveil, cette bodhicitta. Puis une autre question de route. Comment peut-on concilier l'idée d'une réponse spontanée, libre d'arrière-pensée évoquée par Bernhard et Tsering dans l'optique du Mahamudra dans ce moment, entre événement et réponse, qui est caractérisée par la suspension du jugement et par une conscience libre de toutes sortes d'actions. On peut comprendre généralement cela de la sorte. D'un point de vue bouddhiste, toutes les émotions et réactions négatives sont acquises. Ce sont des tendances, des habitudes très fortes. Toutefois, elles émergent d'une mauvaise compréhension, d'une mauvaise conception ou manière de prendre les choses. Cela vient du fait que l'on ne sait pas comment se vivre, faire l'expérience de soi, comment réagir aux événements et aux choses. En conséquence, si l'on se connaissait vraiment, si l'on comprenait ce que l'on est et la manière réelle d'être des choses, alors tout naturellement, nous n'aurions pas à réagir d'une manière négative. Il n'y aurait pas de nécessité à trop réagir avec aversion, avec attachement. Au contraire, nos réactions seraient naturellement empreintes de compassion et de sérénité. Aussi, nous n'aurions pas à courir après quelque chose ou à fuir quelque chose tout le temps. Donc dans le Mahamudra, en fait pas seulement dans le Mahamudra, mais aussi dans tous ses enseignements, quand les gens encouragent à méditer, qu'ils engagent à laisser l'esprit dans son état naturel, qu'ils préconisent la non-action, ce qu'ils font est d'essayer de demeurer dans cet état naturel de l'esprit. Nous n'avons pas à courir après quelque chose ou à fuir quelque chose tout le temps. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas agir du tout, cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas agir pour le bénéfice d'autrui, ou agir avec compassion ou pratiquer les six paramitas. Cela ne revient aucunement à dire cela. Nous devons travailler, nous devons agir au profit de la société et de nous-mêmes. Plus nous pouvons avoir d'activité empreinte, de compassion, meilleur c'est. Il n'y a rien là-dedans de contraire à cela. Ce qui est dit est que nous devons trouver une façon d'apporter de la paix et de la tranquillité à notre esprit, d'apprendre à agir sans courir tout le temps après quelque chose ou pour fuir quelque chose par aversion et attachement. Donc, quand on peut faire cela, être plus libre des tensions, alors nos actions deviennent plus claires, beaucoup plus réfléchies, libres, avec beaucoup plus de compassion et de sagesse. Parce que trop d'émotions négatives obscurcissent notre jugement, notre façon de voir les choses et nos réactions, cela engendre des problèmes pour nous et pour les autres. C'est cela la compréhension correcte. Nous avons besoin d'agir avec compassion, et non pas devenir simplement paresseux et ne rien faire. Mais nous devons agir sans trop d'émotions et de réactions, et sans cette course après quelque chose ou pour fuir quelque chose en permanence, en pensant seulement à soi-même, comme une personne dérangée qui court, court et court tout le temps, avec tellement de tension et tellement de souffrance, avec tant d'aversion et d'attachement intense, d'insatisfaction et de peur, ne faisant que courir, courir, courir pour arriver en fin de vie à se demander ce qu'on a fait. Rien. Rien pour soi-même, rien pour les autres. Nous ne devrions pas agir ainsi. Nous devrions apprendre à nous détendre. Nous devrions apprendre à nous libérer des tensions. Nous devrions apprendre à être, voyez-vous, à être, et pas seulement à courir, mais à être, et à nous connaître, et ainsi apprendre comment faire les choses, comment agir, de façon réfléchie, concentrée, avec gentillesse, avec compassion, et pas trop en réaction, et pour ne rien faire de vraiment utile pour nous et pour les autres. Voilà, c'est la manière de comprendre. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question, mais cela reflète ce que je pense. Je vais m'arrêter pour cette fois, et je répondrai aux autres questions quand elles viendront. Merci beaucoup.